Bonjour, je vous remercie de votre émission. En fait, j'appelle parce que nous sommes un exemple de reconversion. On est venu de Belgique il y a 5 ans. On était cadre moyen et on a décidé du jour au lendemain de vivre au vert et de vivre en autonomie alimentaire, énergétique. Il a fallu beaucoup d'apprentissage et d'expériences bonnes et mauvaises, mais surtout aussi l'entraide avec toute une communauté avoisinante pour arriver aujourd'hui à vivre en quasi-autonomie. Bon, à part le café, le sucre et un peu d'alcool de temps en temps, du bon vin, on est heureux aussi de partager avec des néophytes et de leur montrer comment préparer des choses. Là, aujourd'hui, on vient de tuer les poulets. Et je suis en train de cuisiner les pâtes, parce que même les pâtes se mangent. Ben voilà, bonne journée, à bientôt.
Oui, bonjour, le Terre au Carré. Je m'appelle Yves et je téléphone de Montélimar, dans la Drôme. Je pense que le président de la République a l'air de ne pas savoir ce qu'est un réacteur nucléaire. Quel est le type de réacteur et surtout, quelle est sa puissance. Alors je le dis tout simplement, l'énergie nucléaire produit deux choses. De la chaleur, et elle fait des déchets radioactifs et qui durent, comme le plutonium par exemple, jusqu'à 240 000 ans. Alors, est-ce que c'est ça, la transition énergétique? Parce que ce n'est pas des kilowattheures électriques que font les réacteurs nucléaires, ce sont des kilowattheures thermiques. Et on parle justement des voitures, on va supprimer les voitures thermiques. Eh bien, alors il faut supprimer le nucléaire thermique. Voilà, au revoir la Terre au Carré. Merci pour vos émissions.
Bonjour, c'est Catherine depuis Vierzon dans le Cher. À Vierzon, en 2021, la municipalité vend un morceau de jardin public, 277 mètres carrés, parcelle DK285P, délibération du conseil municipal du 15 avril 2021. On vend une parcelle de jardin public qui va quitter le domaine public. Pour agrémenter une parcelle voisine, on vend une maison de maître du 19e siècle dont la ville ne veut plus non plus. Et dans le lot, il y a donc 277 mètres carrés de jardin public vendu au privé. Merci.
Bonjour, c'est Julien de Charlieu dans la Loire, près de Roanne. En ce moment a lieu le festival alimentaire dans toute la France et à Charlieu, on le relaie avec la MJC et la MAP. Donc venez vendredi 12 novembre au cinéma de Charlieu pour un ciné-débat autour du film Sur le champ. Voilà, plutôt que de s'apitoyer sur le paradoxe de la faim et les problèmes alimentaires, on va essayer de trouver des solutions et de voyager avec ce beau documentaire qui nous emmène au Burkina Faso, au Pérou, en Belgique. À très bientôt, 20h30, vendredi, cinéma de Charlieu.
Le répondeur de la Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
Au sommaire de ce club de la Terre au Carré, on parlera décroissance autour des énergies fossiles à l'heure où se termine la COP26. On évoquera un documentaire lumineux sur la question de l'accès à l'eau en Afrique et puis des récits océaniques pour découvrir les mondes marins grâce aux oiseaux. Pour en parler, nous sommes en duplex de Lyon avec l'économiste Maxime Combe. Bonjour à vous.
Bonjour.
Nous sommes également en duplex de France Bleu Poitou avec l'océanographe David Grémillet. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour Camille.
Et puis en
bonjour.
Studio avec nous, la comédienne et réalisatrice Aïssa Maïga. Bonjour.
Bonjour.
On se retrouve dans un instant avec un premier tour de table et avec les messages des auditrices et des auditeurs. Et Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu et bonjour tout le monde.
Comme tous les vendredis, le journal des bonnes nouvelles et des curiosités de la planète.
Avec aujourd'hui baleine gourmande, femelle qui se reproduit sans mâle et patate géante.
Et ce sera aux alentours de 14h25. Valérie Ayestarai réalise cette émission préparée aujourd'hui par Colin Gruel avec la technique Jenap Sangaré.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré, sur France Inter.
Allez, un premier tour de table pour découvrir les sujets dont nous allons parler. Maxime Combe, vous êtes donc économiste du climat. Vous avez signé lundi dans Le Monde une tribune pour dénoncer le fait que la question de la sortie des énergies fossiles n'est jamais à l'ordre du jour des COP. Sauf que, on apprenait ce matin quand même une bonne nouvelle de la part de la France. C'est que notre pays avait décidé de rejoindre la coalition qui met fin aux subventions publiques aux énergies fossiles à l'étranger d'ici à fin 2022. Annonce de Barbara Pompili. C'est plutôt une bonne nouvelle quand même, non?
C'est plutôt une bonne nouvelle. Tardive, c'est le strict minimum, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, il faut les prendre.
Bon, eh bien, écoutez, on va en parler avec vous dans quelques instants. Aïssa Maïga, vous signez donc ce documentaire « Marcher sur l'eau » qui est sorti mercredi dans les salles. Vous avez tourné ce film entre 2018 et 2020 au nord du Niger, donc dans un village peul autour de la question de l'accès à l'eau. Est-ce que vous avez d'abord des nouvelles du forage qui a été installé là-bas ?
Oui, tout à fait. Le forage a été pour l'instant suspendu parce que les travaux de canalisation qui permettent d'atteindre plusieurs villages sont en train d'être finalisés par le gouvernement du Niger.
Donc tout devrait fonctionner normalement.
Très bientôt, ça se compte en jours maintenant.
Voilà, vous allez nous raconter donc le quotidien de ce village, hein, et des femmes en particulier dans un contexte où l'eau est une vraie ressource rare. Et puis enfin, David Grémillet, vous publiez chez Actes Sud Les Manchots de Mandela et autres récits océaniques, 8 fables pour découvrir donc les oiseaux marins. Quel est le lien entre Nelson Mandela et les manchots ?
C'est là où la politique rencontre la faune sauvage et les manchots qu'on peut considérer comme créatures bénignes. Mais à l'exemple de l'Afrique du Sud, j'ai montré que justement la politique et la faune sauvage se rencontrent dans les océans.
Avec les manchots du Cap, on en saura plus donc dans la dernière partie de cette émission. Nous attendons bien sûr vos messages, vos questions pour nos invités sur la page de La Terre au Carré, l'appli France Inter, où vous pouvez nous laisser vos notes vocales et bien sûr les réseaux sociaux. Sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Ben, c'est top la COP. Parce que je trouve, pour moi, c'est un peu le 31 décembre des chefs d'État. Ils se réunissent, ils prennent plein de bonnes résolutions et ça tient 2 semaines environ. Parce que le but de la COP26, c'est de respecter des promesses qui ont été faites à Paris il y a 6 ans. Et pour le moment, aucun pays n'a respecté les engagements sauf un seul pays, le Bhoutan. C'est le Bhoutan qui est le seul pays aujourd'hui qui a un bilan carbone négatif. Et je me dis, ça fait un peu comme s'il y a 6 ans, tous les pays, ils avaient décidé d'organiser une soirée déguisée et qu'entre-temps, ils s'étaient tous démotivés. Ils sont tous là, wow, j'ai en jean. Tous les pays, sauf le Bhoutan. Le Bhoutan, il s'est plié en 4 pour respecter le truc qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Il allait s'acheter du papier crépon. Et là, à la COP26, il va arriver en mousquetaire. Un pour tous et tous pour un.
Voilà, Thomas VDB, c'était le 28 octobre dans la matinale. Maxime Combe, vous êtes économiste du climat, membre de l'association l'association ATTAC, qui milite pour la justice fiscale, sociale et écologique, et vous êtes l'auteur d'un livre Sortons de l'âge des fossiles, qui était sorti en 2015 au Seuil. Vous êtes d'accord avec Thomas VDB, là, dans son petit résumé de la COP?
Oui, Thomas VDB a entièrement raison. C'est un peu le résumé de cela. Si vous voulez, les décisions qui vont être prises à Glasgow, si elles avaient été prises il y a 20 ans, bah peut-être qu'on pourrait effectivement se réjouir de l'avancée des négociations. Malheureusement, elles viennent très tardivement et il faudrait aujourd'hui des décisions bien plus ambitieuses. Et je pense qu'il y a un chiffre qui résume assez précisément l'état de la situation. C'est quand on prend ce que les États ont mis sur la table aujourd'hui en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, on va battre un record mondial d'émissions de gaz à effet de serre chaque année jusqu'en 2030. Et donc là, avec une augmentation de plus 14, plus 15% d'ici 2030, alors qu'il faudrait faire moins 45%. Et donc c'est cet écart-là entre la réalité des engagements et la réalité des politiques qui sont mises en œuvre qui est extrêmement problématique. Et cet écart ne décroît pas assez rapidement depuis la COP21 à Paris.
Alors lundi dans Le Monde, vous consacriez une tribune au sujet de la décroissance de la production des combustions fossiles et à la question aussi des subventions accordées à ces énergies en écrivant qu'elles étaient des impensées des négociations climatiques. On va en parler dans un instant. Encore un mot quand même sur cette déclaration de Barbara Pompili là tout à l'heure à Glasgow. Donc la France, on le rappelle, qui a décidé finalement de rejoindre cet accord mettant fin au financement à l'étranger de projets d'exploitation d'énergie fossile d'ici fin 2022. Barbara Pompili sur Twitter écrit que la lutte contre le dérèglement climatique implique de tourner la page des énergies fossiles. Bah, c'est exactement ce que vous réclamez, vous, Maxime Combe. Donc ça tombe bien, non ?
Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle. Il y en a suffisamment peu pour les prendre comme telles aujourd'hui. Et après, il faut regarder dans les détails ce qui a été réellement accordé. Ce n'est pas la fin de tous les financements aux énergies fossiles à l'étranger. Par exemple, si vous avez un projet, prenons un cas comme le projet Arctic LNG 2 dans lequel la France pourrait être engagée. Si ce projet vient avec ce qu'on appelle de la capture et du stockage des émissions de gaz à effet de serre, eh bien peut-être que la France pourra toujours continuer à le soutenir. Donc du coup, il y a des astérisques toujours et il faut les regarder de manière extrêmement précise.
Sachant, on précise, Maxime Combe, on précise quand même que la France d'ailleurs n'a pas encore donné officiellement sa position sur précisément le projet Arctic LNG 2. Par rapport quand même à l'annonce là de Barbara Pompili, c'est quand même un message fort. Il y avait une énorme pression là depuis quelques jours, puisque en gros quasiment tous les pays s'étaient engagés, sauf la France qui était très pointée du doigt. Est-ce que ça peut être juste une annonce qui ne sera pas forcément suivie d'effets, comme vous êtes en train de éventuellement le sous-entendre ?
Non, moi ce que je dis, c'est que c'est le produit d'abord d'une mobilisation citoyenne. Ça veut dire que ce sont des ONG, des collectifs citoyens qui se mobilisent et qui se battent depuis des années pour obtenir un engagement de ce type de la France. Et cet engagement aurait pu être pris la semaine dernière. Et face au bad buzz finalement qui a entouré l'annonce, cette mise en place de cette coalition d'États et le fait que la France n'y soit pas, eh bien il y a eu des arbitrages ministériels qui subitement ont rendu possible ce qui n'était pas depuis deux ans. Donc ça, c'est quand même le fruit de la pression exercée par les ONG et la société civile, les citoyens, et ça c'est extrêmement positif. Maintenant, il faut bien comprendre ce que valent ces engagements-là. Ce sont des engagements qui sont pris finalement à l'extérieur des négociations proprement dites. Ce sont des engagements volontaires pris par un certain nombre d'États ou d'institutions, de juridictions, voire d'entreprises privées, et qui valent parce que les engagements sont pris publiquement, mais qui n'ont rien de contraignant, qui n'ont rien d'extrêmement spécifique sur le fait qu'on a des garanties qui vont réellement être mises en œuvre, parce qu'ils se font à l'extérieur de la COP. Par exemple, en 2015, à la COP21, il y a eu 70 coalitions de ce type sur tous les sujets possibles et inimaginables. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable, ou le public est capable de savoir ce qui a été réellement mis en œuvre ? Non, moi non plus d'ailleurs. Et donc c'est une des difficultés de ces coalitions qui sont montées à l'extérieur des négociations, c'est finalement quel suivi, quelle réalisation effective des engagements. Et donc du coup, moi ce que je peux vous dire, c'est wait and see, et voyons l'année prochaine ce qui aura été réellement mis en œuvre et comment cet engagement de la France, qu'on peut saluer ce matin, aura été traduit sur le plan législatif en France.
Alors Maxime Combes, il y a quand même deux autres bonnes nouvelles, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. En tout cas, la surprise est venue hier des États-Unis et de la Chine à Glasgow avec un accord qui les engage, je cite, à poursuivre leurs efforts pour augmenter l'ambition dans les années 2020 et d'accélérer la transition vers une économie mondiale net zéro. Annonce faite donc au lendemain d'une déclaration commune entre les deux pays par John Kerry, qui est envoyé spécial des États-Unis, et Xi Zhenhua pour la Chine. C'était donc le 10 novembre, on les écoute.
Les États-Unis et la Chine ne manquent pas de divergence, mais sur le climat, la coopération est le seul moyen de mener à bien cette tâche. Nous devons atténuer les effets plus rapidement, réduire plus rapidement les émissions de méthane, continuer à revoir nos ambitions à la hausse et surtout prendre des mesures pour que le seuil de 1,5 degré Celsius ne soit pas dépassé.
La Chine va faire l'effort de transformer son énergie basée sur les combustibles fossiles en une énergie basée sur le renouvelable. C'est notre objectif et notre stratégie. Nous travaillons sans relâche dans cette direction. Nous réduirons aussi progressivement notre consommation de charbon.
Alors là encore, ça a été l'une des surprises de ces dernières 24 heures. Comment est-ce que vous interprétez cette annonce des deux puissances, Maxime Combes ? Est-ce que c'est un bon signal politique envoyé au reste du monde ou est-ce que finalement, là encore, il n'y a pas suffisamment de contraintes pour qu'on prenne ces propos très au sérieux ?
Non, pareil, c'est une déclaration volontaire et il faut la prendre pour ce qu'elle est. Elle a une dimension géopolitique très importante. De fait, les États-Unis et la Chine s'affirment comme étant effectivement les deux plus grands pollueurs de la planète, mais également comme étant les deux pays qui vont organiser la gouvernance mondiale sur le climat dans les prochaines années. Mmh. Et donc, du coup, il faut prendre au mot leurs engagements, espérer que les sociétés civiles, à la fois aux États-Unis, mondiales pour la Chine, vont faire pression pour que ça se traduise concrètement par des politiques climatiques nationales qui soient réellement à la hauteur des enjeux. Et après, moi, j'y vois, derrière cette déclaration, la faiblesse de l'Union européenne, malheureusement, la faiblesse de nos pays qui ne sont pas en mesure, finalement, de donner le là à la lutte, à la politique.
Là, c'est clairement les États-Unis et la Chine qui reprennent le leadership, finalement.
Oui, avec toutes les limites que ça peut signifier. Que va-t-il se passer si Biden n'est pas réélu ? Que va-t-il se passer dans les années à venir en Chine, où l'on voit bien que l'agenda national, finalement, n'est non négociable et non discutable dans des enceintes multilatérales et est déterminé uniquement par des réalités nationales ? Donc ça, c'est une des difficultés à laquelle on fait face. Globalement, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un objet à solidarité internationale obligatoire et dans les faits, chacun des États a dit « mon mix énergétique est non négociable, mes politiques économiques sont non négociables et donc je veux bien discuter du reste ». Et donc le reste, c'est pas grand-chose et c'est la difficulté à laquelle on est confronté depuis l'accord de Paris il y a 6 ans.
Maxime Combes, Jonathan nous demande sur l'application France Inter si on peut se passer, alors lui parle de 34 milliards de taxes sur les carburants, en tout cas de l'argent des taxes sur les carburants. Il dit « si plus d'énergie fossile, plus d'argent ?» point d'interrogation.
Mais si plus d'énergie fossile, on aura développé d'autres activités qui généreront d'autres ressources en matière fiscale et surtout on va réduire de manière extrêmement considérable les coûts associés à l'utilisation des énergies fossiles et qui sont notamment des coûts sanitaires, des impacts sur la santé, des impacts sur nos vies et qui sont très très importants. À l'échelle internationale, on considère que l'ensemble des subventions et des coûts associés, finalement ce que nous coûtent les énergies fossiles, c'est 10 millions de dollars par seconde. Ah oui. Et donc, du coup, si on réduit l'utilisation de ces énergies fossiles, eh bien, on va nécessairement, à court et moyen terme, également débloquer des ressources qui seront utilisables pour la transition énergétique.
Pendant qu'on est en train de se parler, là, donc à Glasgow, en Écosse, les États sont en train de se mettre d'accord avant la décision finale qui sera donnée en fin de journée. Il y a un projet qui est sorti ce matin de décision finale dans lequel les pays participants donc à la COP26 sont invités, je cite, à limiter les financements inefficaces aux énergies fossiles. Si ce terme inefficace figure dans la décision finale, Maxime Combes, est-ce que ça viendra anéantir tout ce qu'il y a derrière ?
Alors, il ne faut jamais dire anéantir, tout détruire, ou voilà, il faut prendre ce qu'il y a. C'est une décision de COP, et il y en a eu 25 auparavant. Elles ont permis d'avancer, parfois de régresser sur certains sujets. Et là, en fait, il y a une tentative depuis de nombreuses années de la société civile, d'experts, de chercheurs, d'essayer de mettre la question des énergies fossiles en tant que telle dans le cœur des négociations. Il faut savoir que ça fait 30 ans qu'on négocie sur le réchauffement climatique et qu'il n'y a jamais eu de négociations proprement dites sur la limitation à l'extraction des énergies. fossiles, de gaz, de pétrole, de charbon. Le mot énergie fossile n'apparaît pas dans l'accord de Paris et ça n'a jamais été discuté en tant que tel. Et donc là, il y a des tentatives pour essayer de faire rentrer le mot énergie fossile, et le plus simple à ce stade, c'est de le faire rentrer en parlant des subventions aux énergies fossiles. Et ce qui était dans un texte préliminaire en début de semaine disait qu'il fallait supprimer les subventions aux énergies fossiles n'a pas été accepté par un très grand nombre d'États, parce que ces subventions, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sont extrêmement importantes. Et donc, du coup, on vient d'insérer dans la COP une terminologie qui est en fait utilisée dans le G20, dans le G7, dans le G8, qui est de rajouter inefficace. Et donc, du coup, en fait, ça ne veut strictement plus rien dire. Chaque État pourra définir ce qui est efficace et ne l'est pas, et donc défendre les subventions au secteur des énergies fossiles qui le souhaitent.
Maxime Combe, très vite, parce qu'il nous reste vraiment très très peu de temps, il y a cette alliance mondiale, c'est quand même une autre bonne nouvelle, Beyond Oil and Gas, qui a été lancée à l'initiative du Costa Rica et du Danemark. Pour la première fois dans une COP, un petit groupe de pays donc s'est engagé à sortir du pétrole en mettant fin au financement de projets d'énergie à l'étranger. Donc ça, c'est du jamais vu dans les annales. La France fait partie de cette alliance. Ça, c'est un bon levier, justement, pour l'action climatique, cette interdiction ou la restriction d'exploitation de nouveaux gisements.
Ah, juste une précision, cette alliance, ce n'est pas pour mettre fin au financement des projets d'énergie fossile, c'est pour que les États, les juridictions publiques, arrêtent de délivrer des permis d'exploration et d'exploitation. Et c'est ce que nous demandons depuis très longtemps, et c'est très important de s'attaquer à la production des énergies fossiles. Finalement, c'est comme si vous êtes devant votre cuisinière avec une marmite qui est en train de bouillir et que vous vous dites, non, mais je vais tenir le couvercle et en augmentant le feu dessous. Non, à un moment donné, il faut arrêter d'autoriser des pétroliers, des gaziers, des charbonniers à explorer et exploiter de nouveaux gisements. Et donc, du coup, cette coalition qui est toute petite, qui représente de toutes petites productions. Le plus gros producteur, c'est le Danemark, c'est résiduel. Mais c'est une tentative de mettre à l'agenda des négociations internationales la question de la production des énergies fossiles qui ne l'était pas jusqu'ici. Bon. Et ça, c'est plutôt un levier, c'est une brèche ouverte. Mais encore une fois, c'est qu'une coalition, donc wait and see. Et il va falloir que la société civile s'empare de cette question pour pousser et faire en sorte que ça devienne un sujet de négociations internationales.
Et on verra ce que la France fait elle-même dans son propre pays avec des permis pour l'exploitation de gaz de couche, par exemple, en Lorraine, hein, on verra si effectivement il y a accord ou pas. Merci beaucoup Maxime Combe pour cet éclairage COP26, et puis on peut lire votre tribune qui était publiée donc lundi dans Le Monde. Bonne journée à vous, merci.
France Inter. La Terre au carré.
Et à 14h30, le journal des bonnes nouvelles, 14h27, pardon, pas 14h30, on est en direct, les curiosités de la planète, Camille Cronier.
Et prenez vos combis, on plonge dans l'océan. Bonjour, belle baleine bleue. Toi, le plus gros animal existant sur notre planète est bien plus gourmand qu'on ne le pensait. Une équipe de l'université américaine de Stanford a étudié pendant 11 ans le régime alimentaire des 7 principales baleines du globe. Et pour une fois, sans se baser sur des projections ou en regardant le contenu des estomacs de cétacés échoués, mais directement dans l'eau, en équipant 321 individus de matériel de haute technologie. Et le premier constat, c'est donc qu'elles mangent un max. Écoutez l'auteur principal de l'étude parue dans la revue Nature, Matthew Savokam.
Une baleine bleue, par exemple, dans le Pacifique Nord, les estimations précédentes disaient 4 à 6 tonnes de krill par jour. Notre étude arrive à 10 à 20 tonnes. C'est énorme. Imaginez la quantité qu'elles ingurgitent un jour où elles mangent. C'est plus que le poids de n'importe quel autre animal sur Terre. C'est complètement fou. Leur repas d'un jour est plus gros qu'un éléphant.
Mais le plus important là-dedans, c'est que ce gros appétit est bon pour les océans et donc la planète. Explication du climatologue et océanographe Laurent Bopp, directeur de recherche CNRS.
Des baleines qui mangent beaucoup, ça permet à l'océan d'être plus productif. Et ça, c'est très contre-intuitif. Il y a plus de baleines qui mangent beaucoup de krill, et pourtant il y a plus de krill quand il y a plus de baleines. Et la raison, c'est que le krill contient du fer. Ce fer, il va se retrouver dans l'urine des baleines ou dans les pelotes fécales des baleines, et donc qui va fertiliser l'écosystème. Plus on a de fer, plus on a de phytoplancton ou de microalgues, et donc plus on a d'organismes qui peuvent consommer le phytoplancton, donc plus de krill et plus de baleines.
Voilà, un cercle vertueux qui permet aussi de stocker et d'absorber plus de carbone. On serait donc tenté de penser que les baleines vont sauver le climat en se goinfrant de krill, mais non, c'est bénéfique, mais pas la panacée. Sauver le climat, d'ailleurs, on en parlait à l'instant. Réduire le réchauffement, c'est à la COP26 à Glasgow que ça se joue en ce moment. Et il y a en Écosse un activiste dont je voulais vous transmettre la bonne humeur et la pugnacité. C'est Francesco Vera, 12 ans à peine, venu de Colombie. La plupart des gens disent que les garçons, les filles, les jeunes, nous sommes le futur. Mais nous sommes aussi le présent, nous avons une voix de maintenant, une opinion de maintenant. Ce n'est pas demain ou dans 30 ans quand on pourra voter qu'il faudra le faire, non. Nous aussi, nous sommes des citoyens, dit ce courageux aussi, petit Francesco, courageux puisqu'il a été visé par des menaces de mort, mais il ne lâche rien. Ciao chicos, et merci à Glenn Gillet pour la traduction. Le danger face auquel les abeilles ont une technique, écoutez. Je sais pas si on entend comme des espèces de petits cris. Mm-hmm. En fait, c'est un mouvement qu'elles font avec leurs ailes pour appeler à l'aide parce qu'il y a des frelons asiatiques à l'entrée de la ruche ou du nid et qui menacent la colonie. Vidéo incroyable accompagnant une étude parue mercredi et relayée par le New York Times. Les chercheurs appellent ça le cri de l'abeille. Autre phénomène extraordinaire, c'est deux femelles condors qui ont conçu des poussins sans mâle.
Allons bon.
Et oui, ça s'appelle la parthénogenèse, une première chez les oiseaux, mais ce mode de reproduction sans fécondation existe déjà chez les lézards, les serpents, les grenouilles ou les requins. Le biologiste Thierry Laudet, spécialiste de la sexualité des animaux, nous éclaire.
La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'ovule est en général la cellule qui fait tout le travail avant l'embryogenèse. Le spermatozoïde n'apportant quasiment rien d'autre qu'un contact, un petit élément qui va déclencher le développement de l'ovule lors de la fécondation. C'est en fait très difficile de comprendre d'où vient la parthénogenèse. C'est pas un mode de reproduction qu'on connaît bien, puisque jusqu'à présent, on a fait que l'opposer au mode de reproduction sexuée en disant que ce mode-là était très rare. Il y a que 4 à 5% des espèces peut-être qui font ça.
Vous pensez qu'un jour ça peut arriver chez l'humain ?
Sur le principe, il n'y a aucune raison que la parthénogenèse n'existe pas chez d'autres espèces. En revanche, elle est aussi très rare chez les mammifères. Donc vous voyez, c'est un élément qui déjà bloque a priori, mais on n'en connaît pas le processus scientifique. C'est donc plutôt une forme de sorte de présupposition qu'on a établie.
On est peu de choses quand même.
À suivre. Enfin, vu la dernière histoire dont je vais vous parler, j'étais obligée.
Votre cola, avec ou sans patate?
Sans patate!
Sans patate pour annoncer non pas un héritage, mais la plus grosse pomme de terre du monde. 7,8 kilos, découverte en Nouvelle-Zélande par Colin, fermier du nord du pays. Il raconte l'avoir piqué avec sa fourche après avoir creusé, sorti de terre, et là.
What's going on here? What is it? It's a potato.
Voilà, quand tout devenir de Doug, petit nom de la patate géante. Pas de frites ou de purée, non.
Since I'm a bit of a
comme je suis brasseur amateur.
I'm thinking about a special vodka.
Ah ben oui.
Voilà, une cuvée de vodka spéciale, ben tiens.
Merci beaucoup Camille Cronier pour ce journal des curiosités de la semaine qu'on peut retrouver évidemment sur la page de Latéro Carré.
voulez pas laisser moi vivre.
Et ces mots-là, c'était Delgrès. Hein.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas comme avant? Pourquoi il n'y a pas d'eau? Pourquoi ce changement? C'est la pollution qui nous vient des pays riches. Et les plus touchés, c'est l'Afrique. Le continent africain. C'est ça qu'on appelle les changements climatiques.
Les changements climatiques.
Encore.
Les changements climatiques.
Oui, Barka. Les changements climatiques.
Climatiques.
Oui.
Les changements climatiques.
Très bien.
Voilà, et ça n'est pas facile à dire. Marcher sur l'eau, extrait de votre documentaire Aïssa Maïga. Vous êtes notre invité. Ce film est sorti donc mercredi dans les salles et on entendait la voix de l'instituteur hein, qui joue un rôle très important. L'instituteur du village. Ce village, c'est Tatiste, donc dans le Niger, au nord du pays.
Absolument.
Comment est-ce que vous êtes arrivé là-bas pour tourner ce film?
Alors, c'est Yves Darondeau qui est producteur, qui avait développé ce projet avec un réalisateur, Guy Lagache, qui lui-même a eu d'autres obligations. Donc, après avoir fait des repérages, notamment à Tatiste, il a quitté le projet. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé de reprendre la réalisation du film. Et je me suis intéressée à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand même, quand on va parler de ce village avec des habitants qui sont peu Lwodabé, et ce que ça comporte d'éclatement de leur mode de vie en raison du réchauffement climatique, je me suis dit que peut-être c'était l'endroit où je pourrais raconter l'histoire la plus forte pour essayer de donner à voir ce qu'est la réalité des Sahéliens et, par extension, du monde, car cette question de l'eau va se poser à nous,
pour nous tous.
Voilà, ouais. Pour nous tous dans les décennies à venir. Je me suis dit que c'était le meilleur endroit et je ne crois pas m'être trompée.
Alors ce village, donc, bien c'est là que vous avez pu évoluer dans un film qui est à la fois un documentaire, mais aussi est-ce qu'il y a une part de fiction, parce que il y a une direction d'acteur ou pas avec ces villageois?
Alors j'ai voulu d'abord faire un film à la hauteur des habitants, des personnes. Et je me suis servi des outils de la fiction. Moi, je suis actrice depuis plus de 25 ans maintenant, donc c'est un peu mon milieu naturel pour le documentaire. Donc c'est vraiment un documentaire dans le sens où c'est basé vraiment sur le réel. Il y a parfois même des moments où on n'intervient absolument pas. La caméra capte des moments de vie comme ça. Et puis parfois, il y a des choses que j'ai voulu convoquer parce que je n'avais pas la possibilité de rester pendant un an pour des raisons économiques, mais aussi des raisons sécuritaires. Notre tournage demandait la présence de 15 militaires, deux véhicules blindés, des policiers en civil. Donc tout ça a un coût. Et donc j'ai mené des séries d'entretiens assez longs et donc répétés avec les protagonistes du film. D'abord Houlaï, 14 ans, ouais. Sa maman, l'instituteur, le chef, son papa. Et à l'issue de ces moments d'interview, dans lesquels ils m'ont livré beaucoup de choses sur leur vécu, on s'est mis d'accord pour faire comme si, typiquement, le départ des mères. Voilà, nos agendas ne collaient pas. Et quand la maman de Houlaï m'a livré ce que c'est pour elle, en tant que femme, en tant que maman, de laisser ses enfants régulièrement, parce qu'elle doit aller trouver des petits boulots en ville. Elle brave parfois certains dangers sur les routes.
Les bandits,
l'insécurité, les voleurs. Et donc on a mis en place, en fait, ensemble, le départ. Et elle me disait, sa maman, moi, tu sais, c'est ce qu'on vit tout le temps. Donc pour moi, j'ai pas l'impression de faire semblant. Et puis je voudrais que les mères du monde entier sachent que ce que nous, les femmes peu Lwodabé, vivons. Et je voulais que le spectateur soit immergé et surtout au plus près des personnes que je filmais.
Et au fil des saisons, on en reparlera évidemment.
L'eau est à l'origine de ce que vous racontez par exemple sur ces mères qui partent à la ville. Quel est le rôle de l'eau finalement dans votre documentaire?
Alors l'eau est vraiment le centre des préoccupations des habitants. La quête pour l'eau occupe des heures entières et mobilise les forces vives de toute la famille. Ça demande une énergie colossale. L'eau est là. Alors, la saison des pluies, en deux ou trois décennies, s'est amenuisée. Elle dure 2 mois, là où, il y a 20 ou 25 ans, elle durait 3 mois, 4 mois, 5 mois même, parfois, avec des pluies éparses. Et du coup, les pâturages étaient suffisants. Les peuls et les autres nomades avaient de quoi donner de la nourriture à leur bétail. Les familles pouvaient transhumés ensemble à longueur d'année. Et aujourd'hui, c'est devenu impossible parce que les pâturages ont disparu. Et que 2 mois de pluie, ne suffisent absolument pas à remplir les nappes phréatiques. Alors, l'autre chose, c'est que l'eau est là. Elle est dans un lac aquifère, ouais. Elle est sous les pieds, d'où le titre d'ailleurs, Marcher sur l'eau. Elle est sous les pieds, mais tellement profondément enfouie dans la terre que ça demande des moyens technologiques et financiers. Elle est inaccessible pour les habitants.
Sauf avec un forage.
Absolument.
Et justement, c'est tout l'enjeu autour de ce village. Hein.
Le forage, ça répond à une urgence. Dans un pays comme le Niger, extrêmement enclavé, ça répond à l'urgence, à la survie quotidienne. Mais en termes de développement durable, ça n'est qu'une partie de la solution. Ce qui est important, c'est de travailler sur le territoire. Et il y a des projets extrêmement fertiles, pour le coup, qui sont des projets de restauration des zones humides avec des retenues d'eau naturelles qui permettent aux mares de rester remplies, qui donnent de l'eau aux habitants et aux animaux et qui permettent à la végétation de revenir et qui, de coup, et ça permet aussi... Ça permet à l'évaporation d'attirer les nuages et la pluie. Donc ça, c'est au-delà du film et c'est des choses qui vont être, je pense, travaillées dans la région de Tatiste.
Monsieur, on va marcher sur l'eau.
Oui, certainement. C'est bien une belle question. Oui, comme on a dit, l'eau est au-dessous du sol. Oui, là où nous marchons, il y a de l'eau. Partout où tu marches ici, c'est sur l'eau. En creusant, on peut trouver de l'eau. Mais c'est tellement profond, c'est pour cela. Ici, quand nous faisons des puits, on a des puits très profonds qui vont de 150 à 200 mètres. La nappe est très loin de là. C'est pour cela, vous voyez, dans certaines localités, on fait des forages. Où c'est les moteurs qui puisent cette eau. Il faut des machines. C'est compris? Là, il faut un forage.
Ah oui.
Alors, on va à la maison. Bonne nuit, merci beaucoup.
Aïssa Maïga, votre documentaire donc sorti mercredi sur les écrans dans plus de 80 salles en France, qui a reçu de nombreux prix, ça s'appelle Marcher sur l'eau. Et évidemment, c'est un film qui secoue énormément ici avec notre vision d'occidental, où il suffit de tourner le robinet pour avoir de l'eau. Et on voit là-bas que la moindre goutte est précieuse. Pour... Il y a cette scène magnifique où le père lave son enfant et on voit avec le peu d'eau, le peu de moyens dont il dispose pour le faire, mais que c'est un moment tout à fait particulier finalement. Hein.
Pour moi, c'était important de montrer les liens familiaux, les liens sociaux. Et cette scène, effectivement, elle montre un père qui lave son enfant avec très peu d'eau. Et elle montre également, tout simplement, l'amour d'un père pour son enfant. Et je voulais que tout soit incarné comme ça. Être vraiment au plus près des personnes, au plus près de leurs sentiments, de leurs émotions et aussi de leurs enjeux, bien évidemment. Mais surtout pas avec un regard extérieur, avec une voix off, etc. Et... Ce que je voulais dire également, c'est que dans le film, on a laissé la place belle à l'enfant et à tous les moments de la vie des enfants. Effectivement, leur vie est dure et les enfants de la Zawak le savent, car les images circulent avec les téléphones portables. Ils savent, ils me l'ont dit, on a discuté. Ils disent, on sait que d'autres enfants sur la Terre vivent une vie beaucoup plus facile, notre vie est dure. Mais dans le film, on montre également ce qui fait partie de leur réalité. C'est des moments de joie, des moments de légèreté, des moments d'amusement. Et ça, je pensais que c'était important de le dire, tout comme il est important de montrer la dignité des peuples du Sahel, de montrer la façon dont ils sont capables de résilience. Donc aucune pitié, pas de commisération, pas de culpabilisation non plus des spectateurs, mais simplement l'immersion pour créer une forme d'empathie et se rappeler que ces personnes qui ont une destinée assez tragique sont nos semblables.
Et comment est-ce qu'ils ont justement accueilli votre venue et l'idée d'être au centre de votre documentaire et de devenir quelque part un vecteur dans la lutte contre le changement climatique peut-être ?
Alors moi j'ai eu droit à un ambassadeur qui a fait un travail incroyable, c'est Guy Lagache. Il était passé par Tatiste avant moi, il avait laissé un bon souvenir. Donc quand je suis arrivée, les personnes dans le village étaient totalement au fait... Il savait qu'il y avait un projet de film accompagné de la possibilité d'un forage. Donc on a travaillé avec l'ONG Amaniman, avec Ariane Kirtley, qui était donc en charge de la construction du forage. Donc évidemment qu'il y avait une motivation d'ordre supérieur. Pour autant, la recherche de financement menée par l'ONG, à laquelle nous avons participé en tant que producteurs et réalisatrices, a été assez fastidieuse. C'était pas facile de trouver de l'argent pour un forage qui coûte aux alentours, je vais pas être extrêmement précise, autour de 250 000 euros. C'est beaucoup d'argent à l'échelle d'un village, mais à l'échelle des pays industrialisés, qui sont les pays pollueurs, qui créent une accélération du réchauffement dans des pays où on ne pollue pas, c'est absolument rien.
Et ça nous interroge surtout aussi sur la valeur de l'eau. Est-ce que ce problème, ces tensions vont nous faire vivre aussi à nous occidentaux dans quelques années hein,
parce que... Dans quelques années ou dans quelques décennies. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu abstrait. Quoique, la coalition eau qui regroupe plusieurs associations autour de la question de l'eau raconte bien qu'il y a des territoires en France, dans la France hexagonale, où certaines personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Ou alors, en Guadeloupe, en France d'outre-mer, il y a des endroits où les gens doivent aller chercher de l'eau avec leur bidon. Donc c'est un problème qui se pose déjà, qu'on ne perçoit pas forcément, mais qui est déjà là et qui va se poser de manière drastique dans les décennies à venir.
Oulay, donc c'est cette jeune fille de 14 ans hein, qui est aussi un petit peu le personnage central au fond de votre film, qui a beaucoup de responsabilités aussi pour une jeune femme de son âge, lorsque sa mère, par exemple, doit partir à la ville pour trouver du travail. Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui d'ailleurs?
Alors,
est-ce qu'elle est allée à la ville?
Oui, Oulay, ouais. Elle habite d'ailleurs en dehors de Tatis, elle habite à Tawa pour l'instant, où elle est dans un cursus de rattrapage. C'est une jeune fille qui a vraiment des rêves. Alors au début, elle me les racontait pas trop. Quand je l'interrogeais, elle était très pudique. Je sais pas si elle se sentait même légitime à l'idée de raconter un peu son monde intérieur. Et petit à petit, elle a raconté. Et c'est une jeune fille qui a envie d'être fonctionnaire. Ouais. Et c'est très important parce que ça raconte qu'elle ne se projette pas dans une vie de précarité, que les migrations forcées de sa mère lui apparaissent comme quelque chose d'extrêmement fragile, d'extrêmement... difficile pour l'ensemble de la famille. C'est une jeune fille qui s'inquiète lorsque sa mère n'est pas là. Et elle, aujourd'hui, elle veut travailler dans un bureau. Elle veut être une personne lettrée. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a vraiment touchée dans ce village. C'est la détermination qu'ont les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Malgré toutes les difficultés, ils se serrent la ceinture pour que certains, au moins, puissent poursuivre au-delà de l'école primaire.
Et vous, Aïssa Maïga, ça a changé quoi dans votre vie quotidienne peut-être, ou en tout cas dans le regard que vous aviez sur certaines situations?
Alors, d'une part, je me suis sentie appartenir. Parce que, voilà, j'ai passé du temps en vacances au village. C'est pas la même chose, parce que du côté de Gao, dans ma famille, on habite près du fleuve. Donc il y a toujours eu de l'eau, même si la question de l'irrigation des sols existe. C'est pas exactement la même réalité. Voilà, mais il y a quand même des points communs. J'ai toujours été habituée à cette place qui est, tu fais partie de la famille, complètement. Quand je retournais au Mali, c'était toujours des moments extrêmement chargés d'émotions. Moi, ça m'a forgée dans mon intimité, dans ces, voilà, la terre sahélienne, je l'ai vraiment dans mes entrailles.
Et par rapport à l'écologie?
Et en même temps, j'ai toujours été un peu l'étrangère. Mais du coup, c'est tout à fait lié à la question de l'écologie et au regard que je peux porter sur les populations qui sont dans un grand dénuement. Je n'ai jamais regardé ça de l'extérieur. Et ça, c'est vraiment la base avec laquelle j'ai construit ce film, avec laquelle j'ai fabriqué. L'autre chose, c'est que je ne savais pas ce que les familles Peul Wodabé vivaient en termes d'éclatement de la cellule familiale. Mmh. Et ce double mouvement qui est de regarder le macro et puis le micro, l'intime, je pense que ça a aiguisé mon regard sur l'urgence climatique et l'urgence qu'il y a à apporter des solutions maintenant. On n'a pas le temps.
Voilà, donc c'est un film qui est sorti mercredi, Un marché sur l'eau, que vous signez, film documentaire Aïssa Maïga, avec de très belles images de ce village, des orages aussi, de la pluie, de la végétation qui renaît aussi et qui embarque tout le monde avec cette musique. Il faut signaler aussi cette chef d'orchestre de 28 ans.
C'est Huel Lamor, tout à fait.
Qui a signé la musique de votre documentaire.
Absolument.
Il faut aller le voir, c'est dans les salles depuis mercredi. Merci beaucoup.
Merci à vous.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Dernier invité de ce club, c'est vous, David Grémillet. Vous êtes océanographe et directeur de recherche CNRS au Centre d'études biologiques de Chizay et vous publiez chez Actes Sud Les Manchots de Mandela, autre récit océanique. C'est un roman d'aventure qui parle donc de la vie des oiseaux marins. On parlait de la COP tout à l'heure, les changements globaux, vous le dites hein, dans votre ouvrage, ont des conséquences évidemment très concrètes sur ces oiseaux marins.
En particulier le réchauffement, et on peut penser au réchauffement en Atlantique Nord, est susceptible de chambouler la migration des oiseaux et des oiseaux marins. Et ces migrations étaient encore inconnues il y a une dizaine d'années, et ça participe aux travaux de recherche qu'on a pu mener pour découvrir ces migrations et projeter l'incidence du réchauffement climatique sur ces migrations dans le futur. Et effectivement, un réchauffement de plus de 2 degrés dans l'Atlantique Nord pourrait même mener un renversement des grandes voies migratoires.
Vous dites la population a décliné de moitié en 4 décennies, c'est ça? C'est fou quand même, non?
Oui, oui, c'est assez inquiétant. Entre 1970 et 2010, on a vu un effondrement de la communauté mondiale des oiseaux marins, causé par pas mal de choses, dont les pertes d'habitat, aussi les espèces envahissantes comme les rats, les chats sur les sites de nidification, et puis aussi pas mal les conséquences du changement climatique, de la pêche et des pollutions.
Mais heureusement, il y a des solutions, hein. C'est aussi l'objet de ce livre, pour faire en sorte que ces oiseaux ne disparaissent pas totalement des paysages, et c'est l'objet d'ailleurs d'une des études que vous avez mené avec votre équipe sur l'extension marine de la réserve de Sept-Îles dans les Côtes d'Armor, là où nichent les fameux footbassins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie et protéger vraiment ces oiseaux ?
Alors les footbassins, ils font l'objet d'un des 8 chapitres de mon ouvrage. On les étudie en collaboration avec la LPO depuis une quinzaine d'années sur l'archipel des Sept-Îles. Et c'est fou, on a montré qu'ils sont vraiment sous pression quand ils recherchent des ressources alimentaires en Manche pendant la saison de reproduction. Et en dehors de la saison de reproduction, ils vont partir en Afrique de l'Ouest, où là non plus, il n'y a plus énormément de poissons. Et en plus, là, ils vont rencontrer les pêcheries pirates, ils vont être capturés sur leur palangre. Donc c'est une population, et c'est la seule colonie de reproduction de footbassins en France. Et donc c'est une population qui est vraiment sous pression et stressée. Et ce que vise l'extension marine de la réserve naturelle des Sept-Îles et une zone de quiétude fermée au trafic maritime pendant la période de reproduction, c'est de les laisser en paix à un moment où dans leur vie ils sont vraiment stressés par les conséquences du changement climatique et de la pêche, et qu'ils puissent là, comme sur la place d'un village, se reposer à la surface de l'eau, se toiletter, discuter avec leurs voisins, chercher des partenaires potentiels. Donc oui, effectivement, il y a une enquête publique. Et j'incite tout le monde à y participer.
Et est-ce que c'est propre aux oiseaux marins d'avoir besoin comme ça de lieux calmes et vraiment coupés de toute activité humaine pour se reproduire ? Parce que y a des oiseaux, j'imagine, qui se reproduisent aussi en ville ou bien plus à proximité des activités humaines. Pourquoi les oiseaux marins, ils ont ce besoin d'être comme ça sur des îles inhabitées et presque loin de tout ?
Alors je pense qu'historiquement, les oiseaux marins étaient aussi plus proches de nous. On peut penser autour des îles britanniques en particulier, et même en France métropolitaine. Et puis au fur et à mesure de l'action des humains, et ils se sont retranchés, ou alors ils ont été plus nombreux dans des zones extrêmement isolées, comme les terres australes et antarctiques françaises, où là il n'y avait aucun prédateur terrestre, il n'y avait pas d'humains non plus. Donc c'est probablement aussi pour ça qu'il y a eu ces grosses densités, alors que dans une autre zone dont je parle dans mon livre, qui est le golfe du Bengale, en Inde, là il y a des habitats qui sont a priori favorables aux oiseaux marins, mais les humains sont présents tout le long du trait de côte depuis des milliers d'années, et il n'y avait juste pas de place pour les oiseaux.
David Grémillet, vous avez fait un truc formidable dans le livre, c'est que vous avez mis des QR codes, et par exemple concernant le footbassin, vous avez fixé donc des caméras sur le dos de ces oiseaux, donc justement dans les Côtes d'Armor, et en allant sur le QR code on peut vraiment s'envoler avec eux, être dans la peau des footbassins et même plonger avec eux dans l'océan.
Oui, c'est ce qu'on a effectué. C'est un peu le leitmotiv aussi du livre, c'est voir les océans par les yeux des oiseaux marins. C'est-à-dire essayer de comprendre leur vie quand ils sont loin de nous, d'y rêver aussi. Ce que je voulais faire avec ce livre, c'était retravailler littérairement 30 années de recherche sur les oiseaux marins et vous emmener, vous promener tout autour de la Terre avec eux. Mmh. Et dans le cas précis des footbassins, où il y a une dizaine d'années, quand on a pu enfin mettre des caméras sur leur dos, on a trouvé ça époustouflant de plonger avec eux. Et entre autres aussi, on pouvait voir les bateaux de pêche autour desquels ils tournaient pour essayer d'avoir des rejets de pêche.
Camille est dessus en ce moment, c'est génial.
Je suis en train de le faire, c'est vraiment une vidéo embarquée sur le dos des footbassins. Bon, ça peut donner un peu le tournis. Ça les gêne pas d'ailleurs, ces équipements ?
Alors c'est vraiment un objectif central de nos travaux, de miniaturiser ces équipements au maximum. Maintenant, les toutes petites balises avec lesquelles on suit les fameuses migrations font moins d'un gramme. Elles sont accrochées sur la bague des oiseaux et les dérangent pas du tout.
On voit leurs copains à côté qui volent.
Voilà, et effectivement, au fur et à mesure des travaux, on a fortement miniaturisé ces balises.
Ouais, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est les QR codes, il y en a plusieurs dans le livre. Vous dites que chaque année, 4 millions d'oiseaux sont bagués rien qu'en Europe, c'est ça, pour l'étude des mouvements migratoires ?
Voilà, donc de par le monde, initialement, on avait juste le bagage des oiseaux pour essayer de comprendre leur voie migratoire. Et quand c'était au milieu de l'océan, il n'y avait plus personne pour récupérer les bagues. D'où l'intérêt des petites balises qu'on peut poser pour suivre ces migrations. Et comme elles sont très efficaces, qu'on en récupère beaucoup, on a besoin de moins baguets d'oiseaux quand on utilise ces nouvelles technologies.
Ouais. Alors, autre QR code, autre histoire également, avec celui que vous appelez le roi des mers. C'est quel oiseau exactement ?
Alors c'est le mergulnin, et le roi des mers, en fait, c'est son nom danois, Sekonga, qui est un oiseau extraordinaire, cousin des macareux qui nichent en Bretagne. Mmh. Et c'est l'oiseau marin le plus abondant en Arctique. Un petit oiseau noir et blanc, c'est un peu comme une pie sans la queue, 150 grammes.
Ouais.
Et c'est un oiseau qui continue à m'épater parce qu'il plonge dans les eaux glaciales de l'Arctique pour pêcher des petites crevettes.
Ouais.
Donc il a cette capacité à s'adapter aux mers du Nord et en plus, jusque-là, à résister au réchauffement et aux conséquences du changement climatique. C'est-à-dire que avec ma rationalité de chercheur, moi j'arrive à faire des calculs sur son bilan énergétique pour essayer de comprendre comment il survit. Mais en fait, j'arrête pas d'être épaté par les performances physiques de cet oiseau en plongée et dans les airs qui dépasse tout ce qu'on connaît des athlètes humains.
On va les écouter, un vol collectif de mergulnin au Groenland. Là aussi, on peut le voir en image avec le QR code du livre. Donc ça, c'est un mouvement qui est très imposant, effectivement, parce qu'ils sont très très nombreux.
Voilà, on dirait une émergence de chauve-souris, en fait, quand on voit ça à l'écran, ouais.
Et pour la première fois au monde, vous êtes parvenu à filmer des mergules qui se nourrissent en plongée, David Grémillet, c'est ça ?
Voilà, alors ces mergules, ils mangent des petites crevettes constituent le zooplancton, et on n'avait pas la moindre idée de comment ils faisaient. On savait juste qu'il fallait qu'ils en capturent des milliers, et on s'était dit, bah ils vont peut-être les aspirer, comme des baleines. Donc on a fait du mergule piscine au Spitzberg, on a réussi à avoir du zooplancton vivant dans un grand bassin, et les mergules gourmands ont plongé, et là on a vu en fait qu'ils picoraient quand même comme des poules sous l'eau, mais ils ont un petit dispositif avec la poche sous leur bec qui leur permet de faire un petit aspirateur à plancton qui doit les aider à capturer ces copépodes.
Et j'ai une question un peu naïve, mais est-ce que tous ces oiseaux marins sont tous adaptés aux températures variantes de la mer ? Parce que quand l'eau est très très froide, j'imagine en plus loin des côtes, est-ce que ça leur prend beaucoup d'énergie et donc c'est plus difficile pour certains ?
Eh ben, c'est un des côtés fascinants, c'est-à-dire que ce mergule qui fait que 150 grammes, et il va aller passer l'hiver en plein milieu de l'Atlantique Nord, il va être dans cette espèce de cocon de plumes avec une toute petite épaisseur d'air qui va l'isoler, mais il y a quand même les pattes et le bec qui dépassent. Et dans les pattes, par exemple, il y a des systèmes à contre-courant, comme dans un climatiseur, pour que en fait la chaleur du sang soit recyclée dans le corps de l'oiseau et qu'il prenne pas froid. Mais voilà. Encore une fois, je vous l'explique avec ma rationalité de chercheur, mais je continue à trouver ça absolument extraordinaire qu'ils arrivent à survivre dans ces conditions.
Pourquoi vous parlez d'un roman alors qu'au fond, c'est un essai aussi dans lequel vous racontez vous-même, d'ailleurs, David Grémillet, hein ?
Alors j'ai voulu revivre cette aventure aussi pour retrouver l'émerveillement de mon adolescence et des vacances en Bretagne où on rencontre pour la première fois des grands cormorans posés sur les rochers. Mmh. Et voilà, j'ai voulu me promener dans cette histoire et au fil de ma carrière des océans pour conclure en fait sur la mer de Ross et l'Antarctique qui est peut-être le dernier océan, c'est-à-dire un des derniers océans vierges d'impact humain. Donc c'est un petit peu cette trajectoire qui entrelace mon histoire, ma recherche, les oiseaux marins et les océans.
Une toute dernière question, j'ai vu une histoire ce matin sur un pingouin de l'Antarctique qui est parti à plus de 2000 km de chez lui, on l'a retrouvé en Nouvelle-Zélande. Est-ce que ça peut être une des conséquences aussi du réchauffement climatique avec aussi les changements de routes migratoires?
Alors chez les jeunes oiseaux marins, il y a toujours des conquérants, c'est-à-dire qu'ils partent, qu'ils quittent leur population pour aller voir le vaste monde. Et c'est comme ça aussi que les oiseaux marins, en partant de la zone de la Nouvelle-Zélande, ont pu découvrir la planète. Les fameux manchots du Cap dont je parlais, ben eux, à l'origine, les manchots viennent de la Nouvelle-Zélande et de l'Antarctique, sont passés par l'Amérique latine pour retraverser l'Amérique du Sud et finalement coloniser l'Afrique australe. Ouais. Donc ce sont ces juvéniles d'oiseaux marins qui effectuent ces migrations.
Ouais. Pingouin, c'est pour l'Arctique, oui, et manchot, c'est pour l'Antarctique. C'est la traduction anglaise, en fait.
Je me suis trompée tout à l'heure.
Non, mais c'est le terme anglais, en fait. Ouais. Merci David Grémillet. Les manchots de Mandela, autre récit océanographique, c'est passionnant et c'est aux éditions Actes Sud. Merci à vous et merci aux équipes de France Bleu Poitou.